Il y a juste le ton qui est une blague. Monsieur Saunier, les oiseaux peuvent retourner dans la cage. OK. Alors, vous avez les notes sur les deux coins, vous les avez reçus hier aussi par courriel, et puis on va commencer dans un mot de prière. Ben, je veux te remercier pour le beau soleil à l'extérieur, pour la nuit de sommeil que tu m'as donnée, Seigneur. Merci pour l'espérance qu'il y a dans mon cœur, commencer cette journée en te parlant à toi, Seigneur, en me tournant vers toi, en fixant les regards sur toi. Et Seigneur, à la lumière de ce que nous allons voir ensemble dans le cours ce matin, personnellement, Seigneur, ma foi est fortifiée. Mon cœur est rempli d'actions de grâce parce que je suis entre les mains d'un Dieu souverain qui, dans sa grande bonté, dans son infinie miséricorde, a choisi de m'aimer, Seigneur. De venir au secours de mon âme, de m'offrir une destinée éternelle, de l'assurer aussi cette éternité avec toi, Seigneur. Et je te bénis pour tout ce que tu as déployé en faveur de tes élus, Seigneur. On te prie, Père, de bénir cette leçon. Je te prie, Seigneur, de me donner de la sagesse pour être sensible peut-être aux incompréhensions, aux gens qui pourraient être inquiétés de ce que tu enseignes dans ta parole, et que ton esprit soit avec nous, Seigneur, afin que toute chose soit claire. Que ton esprit puisse illuminer, Seigneur, notre compréhension des Écritures. C'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Amen. Ce matin, on parle d'un sujet qui suscite souvent des bonnes discussions. L'élection et la réprobation. Le paradoxe avec un des nombreux paradoxes avec cette doctrine, c'est que... Pour quelqu'un comme moi, c'est quelque chose qui stimule énormément ma foi. Pour quelqu'un qui ne voit pas les choses comme ça, c'est quelque chose qui peut troubler leur foi. Fait que, c'est un des paradoxes avec l'élection. C'est que ceux qui voient ça dans les Écritures sont profondément bénis par ce qu'ils voient là. Alors, je vais faire de mon mieux pour bien vous exposer la parole ce matin. On entre dans... quelques éléments de l'ordre du salut. Si vous regardez vos notes à la page 3, vous avez une liste de 10 items, l'ordre du salut. Bien, on va en voir quelques-uns. Nous ne les verrons pas tous, d'accord? Tout simplement parce que c'est un survol des doctrines. Je prévois le redonner, ce cours-là, dans 2 ans sur une base annuelle, c'est-à-dire de septembre à juin. Et à ce moment-là, on aura probablement la possibilité d'aller un petit peu plus loin puis de s'arrêter sur davantage d'éléments doctrinaux. Mais ça va demeurer quand même un survol. Alors, si jamais, au terme de la discussion ce matin, vous sortiez d'ici avec plus de questions que de réponses et vous aviez besoin de pousser votre étude biblique sur le sujet, venez me voir ou envoyez-moi un courriel cette semaine ou envoyez un courriel à Danny. On va vous diriger vers des bonnes lectures. En français, il y en a aussi pour vous aider justement à faire une étude biblique plus approfondie sur ça. On a déjà commencé à parler du salut parce qu'on a parlé de l'homme, de son état de perdition, le fait que l'homme est pécheur, sa condition de pécheur, ce que ça entraîne. On a déjà commencé à parler du salut parce qu'on a parlé de Christ et de son œuvre. Et donc, on a déjà commencé à aborder la question du salut. Maintenant, comme je le mentionnais, on va se concentrer sur différents éléments dans cette manière ou comment est-ce que ça s'applique dans la vie du croyant. J'ai trouvé très utile la liste que Grudem nous donne, que je vous ai mis ici, les points 1 à 10. Pour ceux qui ont peu lu ou peu étudié le salut, je pense que ça clarifie beaucoup de choses. Et en le lisant, si vous êtes familier moindrement avec le Nouveau Testament, il y a des pièces du casse-tête qui tombent en place juste en lisant cette liste-là. Voici généralement comment, en théologie, on va résumer les étapes ou l'ordre dans lequel le salut s'opère dans la vie d'un individu. Ça veut dire dans votre vie. Et si vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes capable de dire où est-ce que vous êtes rendu là-dedans. D'accord? Alors, un, l'élection. Dieu choisit ceux qui seront sauvés. Ce matin, on va regarder ensemble la doctrine de l'élection. Je fais tout de suite une parenthèse pour dire tous les chrétiens de la terre sont d'accord que l'élection existe. D'accord? La question sur laquelle tous ne sont pas d'accord, c'est sur quelle base est-ce que nous sommes élus? Est-ce que nous sommes élus en vertu d'un choix libre de Dieu, dans lequel Dieu a décidé d'élire, de choisir certaines personnes sans aucune condition préalable? Ou est-ce que Dieu a choisi ces personnes-là sur la base d'une préscience, sachant qu'ils accepteraient l'Évangile? D'accord? Mais je ne voudrais pas déjà qu'il y ait des gens qui disent « Oh, on parle d'élection un matin, moi je compte ça. » C'est parce que là, vous seriez contre beaucoup, beaucoup, beaucoup de versets dans la Bible. Il n'y a personne, il n'y a pas de chrétiens qui sont contre l'élection. C'est clair dans le Nouveau Testament que l'élection existe. Là où on a des divergences, c'est sur quelle base l'élection se fait. Donc, l'élection, Dieu choisit ceux qui seront sauvés. Deuxièmement, l'appel de l'Évangile, c'est-à-dire lorsqu'on entend le message de l'Évangile, quand les gens nous proclament l'Évangile nous appelle à Christ. Lorsqu'on accepte l'Évangile par l'œuvre de l'Esprit-Saint en nous, notre foi adhère à ce moyen de salut que Dieu nous a offert. On expérimente la nouvelle naissance, la régénération, un cœur nouveau nous est donné. L'Esprit vient faire sa demeure en nous, on devient le temple du Saint-Esprit. Il y a plein de métaphores, il y a plein d'images qu'on trouve dans le Nouveau Testament pour parler de ce moment-là, de la régénération. Suivant ma conviction aussi, puis je pense que c'est assez clair aussi dans la Bible, la conversion, on dirait que ça suit la régénération, parce que la conversion, c'est le moment où je crois et où je me repens. Ça me demande déjà un cœur nouveau pour faire ça. Donc, comment ça se passe exactement tout ça? Les Écritures sont claires, celui qui ne connaît pas Dieu ne cherche pas Dieu. Et donc, celui qui n'a pas un cœur nouveau, qui a un cœur entièrement dépravé, n'a pas ce qu'il faut en lui-même pour croire dans l'Évangile. Alors, lorsque j'ai la foi et lorsque je me repens, déjà l'Esprit est à l'œuvre en moi, ça c'est clair. La justification, c'est notre statut légal devant Dieu. Lorsque Dieu déclare que nous sommes justes, que nos péchés sont effacés, nos péchés sont pardonnés, Dieu nous déclare justes et donc aptes à entrer dans sa présence. L'adoption, c'est toute cette idée qu'au moment justement où l'Esprit vient vivre en nous, au moment où on est justifié, on devient enfant de Dieu. Et Paul est très sévère à plusieurs reprises lorsqu'il dit que ceux qui sont sans Dieu sont fils du diable, ne sont pas fils de Dieu. Ce sont des créatures de Dieu, tous les êtres humains sont des créatures de Dieu, mais il y a ceux qui suivent Dieu et ceux qui suivent le diable. Le langage du Nouveau Testament est très dur. Et donc, lorsqu'on place notre foi en Christ, nous sommes justifiés, nous devenons enfants de Dieu. C'est notre adoption, notre entrée dans la famille de Dieu. Déjà ici, j'en aurais assez pour faire toute une discussion avec un ami catholique, admettons. À savoir, quand est-ce qu'on entre dans la famille de Dieu? Est-ce que c'est par le baptême des enfants qu'on entre dans la famille de Dieu? 7. La sanctification. Une vie juste. C'est très, très, très bien dit. C'est ce processus par lequel l'Esprit-Saint nous transforme de plus en plus de jour en jour pour que notre vie soit de plus en plus conforme à la pensée de Dieu, aux préceptes de Dieu, à la loi de Dieu. Donc, notre vie devient de plus en plus juste dans les faits. Nous ressemblons de plus en plus aux sages du livre des Proverbes. On a déjà été justifiés, notre vie devient de plus en plus juste. La persévérance, c'est-à-dire le fait que Christ va nous soutenir jusqu'à la fin et on va persévérer jusqu'à la fin de notre course. Ensuite de ça, évidemment, la mort, on part pour être dans la présence de Dieu. Et la glorification, c'est-à-dire l'obtention d'un corps de résurrection, un corps glorifié. Et donc, dans un sens, c'est toujours vrai de dire que mon salut à moi, le salut d'une personne qui a placé sa foi en Jésus-Christ, est entièrement accompli déjà. D'accord? Moi, je suis déjà sauvé, je suis déjà assis dans les lieux célestes avec Christ spirituellement, j'ai déjà l'Esprit de Dieu en moi, mais en même temps, mon salut va être complet quand je vais avoir un corps nouveau, lorsque je vais être dans la présence de Dieu. D'accord? Alors, ce n'est pas pour dire que mon salut est conditionnel. Je suis entièrement sauvé, mais en même temps, tout ce que le salut apporte dans ma vie va être fait lorsque je vais avoir un corps glorifié dans la présence de Dieu. Est-ce que vous avez juste des questions sur ça? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est déjà en partant, vous dites c'est vraiment ambigu pour vous? Ça va m'éclairer pour les prochaines semaines. Oui. Oui. La vie éternelle. Oui. Oui, juste répétez, s'il te plaît, pour l'enregistrement. Non, vas-y. Okay.
Donc, quand dans l'Épître de Jean, il dit « Nous savons que nous avons la vie éternelle. » Tu sais, tu parlais de Dieu, de « Si Dieu nous a choisis. »
Oui,
Dieu.
Oui.
Si je prends ce texte-là de Jean, ça rentre en conflit avec une des thèses. Hein? Je ne sais pas ce qu'on veut dire. Que Dieu nous a choisis parce que nous savons, donc, nous, c'est l'individu.
Oui.
S'il dit, selon le télédébat, là,
ouais.
Si Dieu nous a choisis, on rentre en conduction avec ceux qui choisissent cette option.
Ben, pas nécessairement. Oui, je comprends. Mais le texte dans Jean, non, dans le sens que ce texte-là dans Jean nous dit que je sais que j'appartiens à Dieu parce que Dieu est en moi et parce que je demeure en lui, parce que je marche dans ses voies. Fait que je vous dirais, ce que Jean est en train de faire, par exemple, comme allusion là, dans la première lettre de Jean, il est en train de faire allusion au point 7, la sanctification. La vie juste. Et donc, Jean, il dit, regardez les amis, si votre vie est pareille comme la vie d'un non-croyant, il y a lieu de vous interroger à savoir si vous êtes un enfant de Dieu. D'accord? Et c'est pour ça qu'on parle des tests dans les lettres, dans les épîtres de Jean. On parle de tests de la foi. Jean est en train de nous dire, c'est très troublant de lire les lettres de Jean si ma vie n'est pas en règle avec le Seigneur. Non, ça ne vient pas jouer sur la question de l'élection. OK? Ça va? OK. Pardon? Bah, oui, si tu veux, mais ça va être tantôt. Merci, John. Définition. Alors là, ce matin, on parle d'élection de réprobation. Ce qu'on a vu ensemble avec l'ordre du salut, on ne va pas couvrir tout ça ce matin. On s'arrête juste sur la question du point 1. L'élection est un acte de Dieu avant la création par lequel il choisit certains pour être sauvés, non à cause de quelques mérites de leur part qu'il aurait connus d'avance, mais uniquement selon son bon plaisir souverain. Alors, la position que je vous présente ce matin, c'est ce qui est parfois appelé le calvinisme. Et bien honnêtement, c'est ma position. C'est pas, je veux faire une parenthèse ici parce que c'est quand même important. C'est pas dans notre confession de foi, d'accord? Et donc, tu n'as pas besoin d'être calviniste pour être dans cette église-ci. Certainement pas un calviniste extrémiste, que je ne suis pas, selon moi. Mais en même temps, tous les enseignants dans l'église ici, par conviction, on croit que Dieu nous a élus, tel que je vais vous le présenter ce matin. Fait que d'imaginer que vous pouvez évoluer dans une église comme ici sans être constamment titillé, puis constamment comme « Oh! » Ça serait assez difficile, je vous avoue. Il y a tellement de joie et de bénédiction à comprendre les Écritures sur cette question-là que vous allez nous en entendre parler. Mais donc, c'est la position que je vous présente ce matin, puis on va répondre justement à l'autre position, on va regarder tout ça ensemble. Et puis tout à l'heure, vers la fin, je vais faire des nuances justement pour dire que ce n'est pas tous les évangéliques qui ont cette position-là, d'accord? L'élection est un acte de Dieu avant la création par lequel il choisit certains pour être sauvés, non à cause de quelques mérites de leur part qu'il aurait connus d'avance, mais uniquement selon son bon plaisir souverain. Alors là où il va y avoir une divergence, c'est sur justement la clause qu'on a au milieu, non à cause de quelques mérites de leur part qu'il aurait connus d'avance. Ceux qui ont l'autre position sur l'élection sont généralement appelés les Arminiens. Et ils ne vont pas dire que c'est des mérites, mais ils vont dire que Dieu a connu d'avance qu'on allait faire un choix, qu'on allait accepter l'Évangile et que c'est sur cette base-là qu'il nous a élus. D'accord? Mais on va voir ça plus loin ensemble. Le Nouveau Testament enseigne-t-il la prédestination? Alors évidemment, il y a plein de passages. Par exemple, dans Luc, là, je vais vous en lire quelques-uns, d'accord? Je vais vous lire des passages juste pour placer cette discussion-là dans votre esprit, là. Luc se réjouit de ce que plusieurs ont cru et il appuie, il explique le fait qu'ils ont cru par l'élection. Acte 13, 48. Les païens se réjouissaient en entendant cela et glorifiaient la parole du Seigneur et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. On est dans le livre des Actes. Luc est un historien, est en train de rapporter ce qui se passe dans l'Église. Puis il dit, ben, il fait une observation comme ça. Il dit, tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Pour lui, ça va de soi. Paul arrive dans une ville, il annonce l'Évangile, les croyants annoncent l'Évangile, puis tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle ont cru. D'autres passages, Romains 8, 28 à 30. Nous savons du reste, je suis à la prochaine page, du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Donc, on revient un petit peu à mon ordre du salut que je vous présentais au début. Paul est en train de dire, Dieu est souverain sur ces questions-là. Dieu est derrière tout ça et Dieu opère les choses selon son dessein. D'accord? Il y a l'idée ici de connu d'avance, on va revenir dessus un peu plus loin. Et ensuite, au chapitre 9, l'apôtre affirme que si Dieu a arrêté son choix sur Jacob plutôt qu'Ésaü, ce n'est pas en vertu de mérite quelconque ou d'un mérite quelconque qu'il aurait trouvé en Jacob. Ça, c'est un texte qui est vraiment, vraiment important, d'accord? Dans Romains 9. Puis en fait, je ne suis pas sûr que c'est le premier texte que j'irais lire avec quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. D'accord? C'est un texte qui est assez bouleversant, puis en même temps qui est très rassurant pour moi. Romains 9, 11 à 13. « Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés, » Paul est en train de parler de la naissance de Jacob et d'Ésaü. « Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés et qu'ils ne se fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât, sans dépendre des œuvres et par la volonté de celui qui appelle, il fut dit à Rebecca, « L'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, « J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. » Alors, oui, Camille. Le texte ne le dit pas, mais c'est sûr que je vais commenter ça. Je vais juste vous lire ma phrase après, puis je reviens sur le passage. Dans ce dernier passage, non seulement l'élection est clairement affirmée, mais il est aussi évident que ce choix ne repose que sur une décision divine, non en vertu d'une œuvre quelconque, ni passée, ni présente, ni à venir. Dans le texte, ce que Paul dit ici, si on fait juste le regarder plus attentivement, il dit « sans dépendre des œuvres et par la volonté de celui qui appelle ». Paul est en train d'affirmer deux choses. Il est en train d'affirmer qu'il a élu Jacob plutôt qu'Ésaü, non sur la base des œuvres, puisque ça s'est fait avant qu'il ne fasse le bien et le mal. Donc ça, c'est la première chose. Ce n'est pas sur la base de leurs œuvres qu'il les a choisis. Mais deuxièmement, il dit, et la raison pour ça, il dit « par la seule volonté de celui qui appelle ». C'est Dieu qui décide. Paul affirme ici que c'est Dieu qui décide. D'accord? C'est sa volonté qui doit se manifester dans son choix d'élection. C'est ce qui est affirmé dans le texte ici. Oui. Tu peux-tu te rapprocher un peu ou tu es obligé de rester là-bas? Ou c'est un principe? Non? OK, tu n'as pas de conviction là-dessus. Merci.
En rapport avec ça, est-ce que ça serait possible qu'il ait vu juste, sans que ce soit sur les œuvres, mais il a vu le cœur, puis il y en a un qui avait un petit peu plus d'intérêt spirituel que l'autre. Ils n'ont rien fait, là, c'est juste qu'il voit le cœur déjà d'avance, puis il dit, j'ai le choix entre les deux, lui, parce qu'il y a un meilleur cœur, comme David. David, écoute, si on regarde les œuvres, là, il était à côté, puis pourtant, il y avait un cœur que Dieu...
Les gens qui défendent la position arménienne vont argumenter. Je pense que Paul affirme clairement le contraire de ça. Il dit, c'est en vertu de la volonté de celui qui appelle. Sa volonté, pas en vertu de ce qu'il va voir chez eux, en vertu de sa volonté. Fait que nous, on a choisi d'acheter telle maison en vertu de ce qu'on voulait. T'sais. Fait que je pense que c'est assez clair ce que Paul affirme ici. Mais oui, c'est la position arménienne. Puis on va y revenir. Je vais l'exposer un petit peu plus, la position arménienne. Ils voient leur cœur à venir, c'est ça que tu veux dire? OK. C'est possible, mais le texte ne dit pas ça. Fait que un principe en herméneutique, d'accord? Ça, c'est important parce que ça peut vous aider à bâtir vos convictions sur ça. Par exemple, laissez-moi vous scandaliser un tout petit peu, d'accord? Est-ce qu'il y a des textes qui sont très ambigus sur la divinité de Christ? Il y en a. Il y a des textes où Jésus semble dire qu'il n'est pas Dieu. C'est vrai, là. Puis je veux dire, si vous ne les connaissez pas, allez jaser avec un témoin de Jéhovah 5 minutes, ils les connaissent toutes. C'est juste ceux-là qui lisent. D'accord? Mais donc, il y en a. Maintenant, l'évidence de l'ensemble des Écritures, de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, c'est que Christ est Dieu. Et donc, un principe important dans l'étude de la Bible, que ce soit lorsqu'on est en train d'interpréter les Écritures, c'est qu'on ne bâtit jamais une doctrine sur un passage ambigu. D'accord? On bâtit les doctrines à partir de passages clairs et on bâtit une doctrine en accord avec l'ensemble de la révélation des Écritures. Donc ça, c'est très important. Personnellement, c'est ça qui fait que je suis convaincu de cette position-là, c'est que l'ensemble des évidences dans les Écritures vont dans la direction d'une élection pure. D'accord? Et donc, un texte comme celui-là, est-ce que ce serait possible qu'il dise ça pour répondre à ta question, Karine? Peut-être, mais ce n'est pas ça qu'il dit. Fait que, encore une fois, un principe en exégèse, c'est que dans une première lecture, tu prends un texte pour ce qu'il dit. Si tu décides de ne pas prendre un texte pour ce qu'il dit, il faut qu'il y ait des raisons qui t'amènent à dire que ce n'est pas ça qu'il dit. D'accord? Par exemple, il y a des textes où il y a des métaphores, il y a des textes prophétiques où il y a des images qui sont très, très fortes. Puis là, on les lit, puis on se dit, bien, je ne pense pas que Jésus a vraiment dit qu'il fallait que je me coupe la main. Qu'est-ce qui me permet de dire ça? Je vais étudier le contexte. Jésus est en train de parler avec une hyperbole. Il est en train de faire une exagération pour faire son point. D'accord? Mais dans une première lecture, quand les gens ils disent, là, vous parlez avec des non-chrétiens, puis ils vous disent, ah, mais vous voyez n'importe quoi dans la Bible. Non, moi, je veux dire, a priori, je lis la Bible comme je lis le Journal de Montréal. Le Journal de Montréal, il dit qu'il y a eu un accident sur le boulevard Taschereau. Je ne commence pas à m'imaginer que ça parle d'inflation, puis de hausse du prix de l'essence, puis que ma femme va me quitter demain matin. Je ne vois pas des prophéties là-dedans, ça m'annonce un accident, c'est tout. Je lis la Bible de la même manière. Maintenant, si dans le Journal de Montréal, il s'adonne qu'il y a une poésie dans le Journal de Montréal, puis que la poésie dit que mon épouse est comme une fleur, bien, je comprends que ma femme, ce n'est pas quelque chose qu'il faut que j'arrose le matin en me levant. Comprenez? Parce que j'arrive dans un texte poétique, je suis dans une poésie. Mais je vais avoir le discernement, quand je lis le Journal de Montréal, de voir que je suis passé des nouvelles du sport à une chronique poétique, admettons. Puis je vais faire la nuance entre les deux. On fait la même chose avec la Bible. C'est pas si simple que ça, mais c'est pas beaucoup plus compliqué que ça non plus. D'accord? La différence, c'est qu'on lit un journal qui remonte peut-être à 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans. T'sais. Bon, fait qu'il faut peut-être aller lire un petit peu sur le contexte quand tu vas voir les nouvelles du sport de cette époque-là pour bien comprendre la Bible. D'accord? Oui? Oui, tu avais une question? Puis moi, j'avais un micro. C'est correct.
Bon, c'est que c'est dans Hébreux, je pense, ce texte. Ceux qui persévèrent jusqu'à la fin seront sauvés.
Oui.
Des fois, certaines églises, sans les dire non.
Oui.
Ils prêchent ça comme perdre celui. Veux-tu mettre ça, ce verset-là, dans son contexte pour moi? Quand tu connais le texte en Hébreux, je pense qu'il dit ça.
Oui. Ben, je veux dire, oui, c'est vrai. Ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin vont être sauvés. C'est ça. Fait que, en vertu de quoi est-ce qu'on va persévérer jusqu'à la fin? C'est ça la question. Que c'est tout à fait vrai, ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin vont être sauvés. Ceux qui ne persévèrent pas ne seront pas sauvés. C'est vrai. En vertu de quoi est-ce que je vais persévérer? Est-ce que ça dépend de moi? Est-ce que ça dépend de mes forces? Est-ce que j'ai des promesses que ceux qui sont élus vont persévérer? Oui, j'ai des promesses que ceux qui sont élus vont persévérer. Fait que Jean nous dit, ils sont sortis du milieu de nous parce qu'ils n'étaient pas des nôtres. Ah, ils n'étaient pas des nôtres. Ce n'étaient pas des élus. Ils n'ont pas persévéré jusqu'à la fin. Ils ne sont pas sauvés. Mais... Ils ne l'ont jamais été. Ils ne l'ont jamais été. Fait que lorsque quelqu'un... Non, on ne peut pas perdre notre salut. Mais c'est clair que si quelqu'un fait une profession de foi, puis abandonne la foi, puis il ne marche pas avec le Seigneur, moi, à sa place, je ne serais pas sûr que je m'en vais au ciel. Tu comprends? Parce qu'il ne persévère pas. Hein? Fait que Jésus nous parle de quatre terres, puis il y en a juste une qui persévère jusqu'à la fin. C'est celle qui a été élue. Je ne me souviens pas si on reprend un temps sur la persévérance finale des saints. Je vais avancer dans mes textes bibliques, puis je reviendrai avec des questions. Oui, parce qu'on a lu Romains. OK. Romains 11, 7. Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, mais l'élection l'a obtenu, tandis que les autres ont été endurcis. Selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre jusqu'à ce jour. C'est clair qu'il est question de la souveraineté de Dieu ici. Dans sa lettre, dans la lettre à l'église d'Éphèse, Paul commence une doxologie, c'est lorsqu'il part sur une doctrine puis il se met à adorer. Un tout petit commentaire?
On voit clairement dans le texte que tu viens de lire que même le cœur, c'est Dieu qui le donne. Alors, d'avoir une élection basée sur « Ah, Dieu voit le cœur de quelqu'un », oui, si Dieu voit que j'ai un bon cœur, bravo, mais c'est Dieu qui m'a donné le bon cœur. Puis s'il ne me l'avait pas donné, je ne l'aurais pas. Donc, je suis sauvé d'une manière ou d'une autre par sa souveraineté.
C'est ça, oui. Ce que les ouais, on va arriver plus loin sur les armées. Merci, Stéphane. OK, dans la première partie, le premier chapitre, les 14 premiers versets de la lettre aux Éphésiens, c'est un verset en réalité. D'accord? C'est comme une phrase que Paul a écrite. Et puis on appelle ça une doxologie parce qu'il commence avec une vérité sur Dieu puis il se met à adorer. D'accord? Enfin, doxa, c'est la vérité. Il part avec une vérité sur Dieu puis il se met à adorer. C'est ce qu'il fait. Maintenant, dans ça, il est encore question à nouveau d'élection. En fait, c'est un des textes importants sur l'élection. Éphésiens 1, 4 à 6. « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. » Alors, comme je vous dis, la question de l'élection, ce n'est pas une question difficile dans le sens que tout le monde croit à l'élection. Tu ne peux pas lire le Nouveau Testament et ne pas croire à l'élection. Là où il va y avoir divergence d'opinion ou de conviction, c'est sur quelle base. Mais ce texte-là est très clair sur la question que nous sommes élus, que ça s'est fait avant la fondation du monde, que Dieu nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption. Alors, avant que mes parents me conçoivent, j'étais, Yannick Etier, prédestiné à être un enfant de Dieu. D'accord? Ça, c'est très clair. Et tout le monde croit ça, même ceux qui vont avoir une position arminienne. Parce que je ne voudrais pas que le débat entre les deux vous amène même à négliger cet aspect-là. C'est un aspect très important de notre foi. C'est un aspect important de votre foi au quotidien. 1 Thessaloniciens 1, 4 et 5. « Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. » Ici, ce que Paul est en train de faire, c'est qu'il est allé à Thessalonique, il a annoncé l'Évangile et la réponse des Thessaloniciens, pour lui, c'est tout simplement un indicatif que eux autres étaient sauvés, que eux autres étaient élus, je m'excuse. Alors, il dit, « Nous savons, frères bien-aimés, que vous avez été élus parce que notre évangile a été reçu avec puissance au milieu de vous. Vous vous êtes convertis. Oh, j'ai trouvé un autre des élus. » Et c'est ça le commentaire de Paul ici. D'accord? 2 Thessaloniciens 2, 13. « Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. » Encore une fois, le choix de Dieu. Dans le prochain passage, 2 Timothée 1, 9, Paul affirme que l'élection ne repose pas sur une œuvre quelconque de notre part, mais entièrement selon son plan. Par la puissance de Dieu qui nous a sauvés, nous a adressé une sainte vocation, ça veut dire un appel à marcher dans la sainteté, à marcher avec Dieu, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Alors encore une fois, c'est la même affirmation que dans la lettre aux Romains, où Paul dit, puis Paul est en train d'écrire à Timothée ici, et il dit, Dieu nous a élus non en vertu de nos œuvres, mais en vertu de ses projets, de ses desseins, de ce que lui a décidé. Dans Romains, il a dit de sa volonté. D'accord? C'est en vertu de sa volonté qu'il a pris cette décision-là. Donc ça repose sur lui. Et lorsque vous entrez dans tout ce questionnement-là par rapport à la position, admettons, on va dire calviniste puis arminienne, bien, moi, je vais vous le présenter comme ça. En définitive, lorsqu'on veut essayer de comprendre sur quelle base est-ce que Dieu nous a élus, les calvinistes vont dire, Dieu nous a élus sur la base uniquement de sa volonté à lui. C'est lui qui a choisi. Les Arméniens vont dire, Dieu nous a élus en vertu de ce qu'il a vu en nous. Donc, ça dépend un peu plus de nous. D'accord? C'est ce qui fait que généralement, ceux qui ont la position calviniste vont voir dans ça une autre forme de salut par les œuvres, quelque part. D'accord? Dans le sens que Dieu aurait vu quelque chose de meilleur en certains d'entre nous. L'apôtre Pierre, simplement pour voir ensemble que ce n'est pas juste Paul qui avait une fixation sur l'élection. L'apôtre Pierre, à son tour, affirme l'élection dans 1 Pierre 1:1. « Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers, dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie, la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, je vais revenir aussi sur ce passage-là, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. » Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Je vous lis l'autre passage, 1 Pierre 2:9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Alors, une race élue, c'est une race choisie. D'accord? Alors, dans 1 Pierre 1:1, il dit qu'il nous a élus selon la préscience du Père, par la sanctification de l'Esprit. Et puis, dans 1 Pierre 2:9, il dit, vous êtes une race choisie. Donc, cette idée d'être choisi est encore là. Je vais revenir tout à l'heure spécifiquement sur 1 Pierre 1:1. Enfin, dans le livre de l'Apocalypse, l'apôtre Jean reçoit cette révélation que tous ceux qui n'ont pas été inscrits dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation adoreront la bête. Donc, il est en train de dire ce qui va se passer dans le futur est directement relié à ce qui a été écrit avant la fondation, c'est-à-dire où est-ce que ton nom a été inscrit, est-ce qu'il a été inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Apocalypse 3, 7 et 7b à 8. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue, toute nation, et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Alors, tous ceux qui n'ont pas été inscrits là se sont mis à adorer la bête. D'accord? C'est juste pour voir ensemble une série de textes où on voit cette idée de l'élection qui est très, très présente dans les Écritures. C'est là, c'est présent. On va aller voir ensemble un petit peu plus ce qui peut nous amener à croire que c'est en vertu d'un choix simple de Dieu. Pour moi, c'est quand même dit dans le texte, dans les textes qu'on a lus, mais on va répondre à des questions. Comment le Nouveau Testament présente-t-il la doctrine de l'élection? Alors, on a vu qu'il la présente. Maintenant, qu'est-ce que c'est censé changer dans notre vie? Je m'excuse. Qu'est-ce que c'est censé apporter à notre foi? Dans le Nouveau Testament, la doctrine de l'élection est là pour notre réconfort. D'accord? À plusieurs reprises, quand Paul parle de l'élection, c'est en vue de notre réconfort, de nous réconforter. Les auteurs du Nouveau Testament trouvent un grand réconfort dans la connaissance du fait que Dieu est celui qui nous a choisis et que son choix ne repose pas sur nos œuvres, mais sur les desseins éternels de Dieu. Ainsi, le croyant peut se reposer sur la grâce et la souveraineté de Dieu plutôt que sur ses propres performances passées et à venir. Alors, Paul se sert à plusieurs reprises de la question de l'élection pour dire « Soyez en paix. Ce que Dieu, non seulement a commencé en vous, mais avait décidé de faire en vous, il va le mener à terme. Vous ne devriez pas être en paix simplement parce que vous savez qu'il y a 12 ans, vous avez accepté le Seigneur. Si vous comprenez bien qui est Dieu, qu'est-ce que c'est le salut, et combien Dieu a fait concourir toutes choses pour qu'un jour Christ vienne et que les élus soient sauvés, bien, quand il y a des moments de doute, quand il y a des moments de combat, quand il y a des moments de faiblesse, quand il y a des moments où tu dis, Seigneur, on dirait que ta main n'est pas sur moi. Je suis en train de me demander si je suis un de tes enfants, je lutte avec tel péché, il y a des obstacles, il y a des épreuves qui viennent dans ma vie. Bien sûr, je peux retourner au jour de ma conversion. Je peux retourner au jour de ma conversion puis dire, Seigneur, tu étais là, tu m'avais transformé, tu as fait des choses, tu vas terminer. Paul, il dit, OK, mais remonte plus loin, mon ami. Remonte plus loin que ça encore. Un peu de la même manière que si ma fille me disait ou mon fils me disait, papa, maman, vous m'aimez pas, tout ça, tu sais. Puis à un moment donné, dans la discussion, on dirait, non, mais regarde, nous autres, on se rappelle du jour de ta naissance, toute la joie qu'on a eue, mais laisse-nous aller plus loin encore. On a attendu 6 ans, nous, avant d'avoir des enfants, mais on avait hâte d'avoir des enfants. On en voulait, on rêvait de nos enfants. Voyez-vous, alors Paul est en train de dire, remontez plus loin encore, faut remonter avant la fondation du monde. Parce que vous aviez été élu. Il va faire la démonstration de cette souveraineté de Dieu de deux manières. dans notre choix à nous, dans le fait qu'on a été élu, mais avec Christ aussi. La manière que le plan de rédemption, le moyen de salut que Dieu avait conçu de toute éternité, il a tout fait concourir pour que cela s'opère, que ça arrive, que Christ naisse selon les prophéties. Donc, Dieu a fait tout ça en faveur des élus. Il y a une source de réconfort, selon les auteurs du Nouveau Testament, dans cette doctrine. C'est une raison pour louer Dieu. Au haut de la page 6, comme nous le mentionnons plus haut, Paul, dans sa lettre aux Éphésiens, voit une source de louange extraordinaire dans le fait que nous ayons été élus. Ça change les choses dans ma perspective, puis dans ma vision de Dieu et dans ma relation avec Dieu lorsque je réalise que j'ai été choisi avant la fondation du monde. Dieu ne va pas me laisser tomber là. Avant qu'il ait créé la terre, j'étais déjà dans ses plans. Dieu ne va pas me laisser tomber maintenant. Je suis dans ses plans depuis toujours. Il ne faut pas me laisser tomber. Et là, j'ai la possibilité de me tourner vers Dieu, puis vraiment, Seigneur, mon salut ne dépendait pas de moi. Il dépendait de ton amour, de tes desseins d'amour envers moi, de la grâce que tu avais en ma faveur, Seigneur. Et donc, j'ai une source, j'ai un sujet de louange, d'adoration qui vient en moi, parce que Dieu m'a choisi. Vous savez, dans nos relations les uns avec les autres, c'est vraiment une des beautés de l'élection. Lorsqu'on a des rapports les uns avec les autres, on veut avoir une amitié, tout ça. Des fois, on va poser la question, pourquoi tu es mon ami? Ou tu sais, deux amoureux vont se demander, oui, mais pourquoi tu m'aimes? Il y a toutes sortes de réponses qu'on peut donner. Hein? Puis lorsque la personne pose la question, elle veut avoir les motifs. Pourquoi est-ce que tu m'aimes? Si, les gars, là, si votre, la prochaine fois que votre épouse vous pose cette question-là, là, ne dites pas, c'est parce que tu as du talent, c'est parce que tu es belle, parce qu'elle sera peut-être un peu moins plus tard, c'est parce que tu me comprends. La bonne réponse, là, prenez le temps là, de la regarder, là, puis dites-y, parce que je t'aime. C'est ça que Dieu nous a dit. C'est pas, tu vas être un bon chrétien, Yannick, tu sais, tu vas être un pasteur, tu sais, puis je t'aime parce que tu vas être un pasteur, puis t'aimes ça même quand les gens vont te reprendre, tu sais, t'as des belles attitudes, Yannick, c'est pour ça que je t'aime. Tu sais. Non, Dieu m'a dit, Yannick, je t'aime parce que je t'aime. Je t'ai choisi, je t'aime. Ça enlève tout un fardeau. Ça enlève un poids incroyable. Parce que moi, je sais que souvent, je suis pas aimable. Si ça dépend de mon amabilité, ben, je suis mal pris. Mais la réponse de Dieu, c'est je t'ai choisi, Yannick. Pas parce que j'ai vu en toi quelqu'un de plus haut qu'un autre, j'ai choisi. Je t'aime parce que je t'aime, c'est tout. Et donc ça suscite de la louange, de l'adoration dans nos cœurs. Enfin, dans le Nouveau Testament, les auteurs du Nouveau Testament se servent de la doctrine de l'élection pour nous encourager à évangéliser. Ce qui est le grand paradoxe, parce que ceux qui ont une position arménienne voient dans ça justement comme un découragement à évangéliser, mais ce n'est pas comme ça que Paul le voit. Dans l'esprit du Nouveau Testament, on trouve aussi une profonde motivation dans notre évangélisation, dans le fait que nous avons la conviction que Dieu a élu des hommes et des femmes pour le salut. Ainsi, c'est donc avec la certitude que, on annonce l'Évangile avec la certitude que Dieu nous conduira vers ses élus et qu'il les sauvera effectivement. Sa grâce va être efficace pour les élus. Ça va se faire. Ils vont être sauvés. Parce que c'est lui qui les a élus. Fait que je m'en vais annoncer l'Évangile avec cette confiance dans mon cœur que Dieu va sauver. Si la personne est élue, elle va l'accepter. Et donc, j'ai un encouragement à reconnaître la puissance de l'Évangile. Dieu va sauver. Il va le faire. Maintenant, on va regarder ensemble des compréhensions erronées de la doctrine de l'élection. L'élection n'est ni fataliste ni mécaniste. Je n'aurai pas le temps de tout couvrir ce matin. Je pense qu'on va terminer la semaine prochaine. On accuse parfois la doctrine de l'élection de relever du fatalisme et de présenter une conception mécaniste de l'univers. D'accord? Je vous ai mis intégralement la citation de Grudem. Il l'expliquait beaucoup mieux que moi. Le fatalisme désigne un système dans lequel les choix et les décisions des hommes ne font aucune différence. Ce qui doit arriver arrivera, quoi que nous fassions. Il est donc parfaitement inutile de tenter d'influer sur l'issue des événements ou de nos vies par nos efforts ou nos choix, parce que ceux-ci n'y changeront rien de toute manière. Un système véritablement fataliste annihile, ça veut dire annule notre humanité, détruit notre humanité, car nos choix n'ont aucun effet et notre responsabilité morale est inexistante. Ce n'est pas ce que le Nouveau Testament enseigne, mais certains comprennent ceci en entendant parler de l'élection. Le système mécaniste, quant à lui, donc la fatalité, hein, c'est de dire, pff, de toute façon, pff, tout est décidé d'avance, je perds toute ma motivation, tout est décidé, Dieu a élu ses élus, puis ça finit là. Le système mécaniste, quant à lui, ça se ressemble, présente un univers impersonnel dans lequel tout ce qui arrive a été déterminé il y a très longtemps et de façon inflexible par une force impersonnelle. C'est comme si Dieu a écrit les affaires, puis après ça, les choses font juste suivre un cours mécanique. Ça va se produire comme ça doit se produire. Ça se ressemble, je suis d'accord. Le monde obéit à un fonctionnement mécanique de telle sorte que les humains ressemblent davantage à des machines ou à des robots qu'à des êtres vivants. Comme dans le système fataliste, la personnalité est ramenée au niveau d'une machine qui fonctionne selon des plans prédéterminés et en réaction à des causes ou des influences, elles aussi prédéterminées. D'accord? La doctrine de l'élection est parfois perçue comme ça. Ce n'est pas ce que le Nouveau Testament enseigne. Le Nouveau Testament ne parle pas d'un mécanisme impersonnel. Tout au contraire, il nous présente un Dieu personnel qui désire le salut de créatures bien personnelles, des individus. C'est pourquoi le Nouveau Testament présente ceux que Dieu a choisis comme ses enfants. Alors, tout le langage du Nouveau Testament, c'est un langage relationnel. C'est un être personnel qui est en relation avec des individus. Ça ne nous parle pas d'une espèce de grande matrice universelle qui déterminerait la destinée de chacun selon un programme fait à l'avance. De même, les Saintes Écritures nous révèlent le cœur de Dieu à l'égard de ceux qui se rebellent contre lui. Alors, on ne voit pas dans les Écritures non plus Dieu comme un être machiavélique qui n'en aurait absolument rien ciré des méchants et qui ne serait pas affecté par leur rébellion. Ézéchiel 33, 11. « Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. » D'accord? Alors, les Écritures ne nous permettent pas de définir Dieu comme un être qui... Il n'y en a rien à cirer de ces gens-là. Il est complètement indifférent à leur rébellion. Il est complètement indifférent à leur méchanceté. Il est complètement indifférent au fait qu'eux autres ne veulent rien savoir de lui. Ce n'est pas ça que les Écritures nous disent. Le Nouveau Testament nous présente notre propre réponse à l'Évangile comme étant des choix véritables. Des choix de véritables personnes faisant des choix individuels. Je m'excuse, ce n'est pas une super phrase. Le Seigneur invite tous les hommes. D'accord? Alors, constamment dans les Écritures, on voit un appel à l'individu de prendre une décision, de faire un choix. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Et même au contraire, il dit de ceux qui ne veulent pas venir à lui que c'est leur décision. Alors que pour ceux qui rejettent l'invitation de l'Évangile, c'est ça dans Jean 5, 40, « Vous ne voulez pas venir à moi pour recevoir la vie. » Il dit « Vous ne le voulez pas. » Dans les faits, c'est ça. D'accord? Au terme d'une leçon sur l'élection puis sur la réprobation, vous allez rester avec des points d'interrogation. Et si vous avez une conviction semblable à la mienne, vous allez rester avec des points d'interrogation. D'accord? Parce que je crois que Dieu nous a choisis, puis je suis convaincu que je fais mes choix. Parce que je pense que la Bible enseigne ça. Et j'essaie juste de rester conforme à ce que les Écritures enseignent. Oui, je vais prendre un petit commentaire de Sylvain. Ma pause café.
OK, si je prends l'exemple d'Abraham, on sait qu'Abraham était élu, on sait. Mais quand il a fait le choix d'offrir Isaac, là, je crois vraiment que c'est son choix à lui personnel. Mm-hmm. Ça fait que je pense que l'élection, c'est quelque chose de très profond, très élevé, je pense. Je pense que la question est la plus importante, je pense, je sais pas. Je pense qu'on va passer l'éternité. Puis là, on va le comprendre de l'autre côté, je sais pas, mais je sais qu'on a un choix à faire. Mais en arrière du choix, je sais que l'élection est là. Mais Dieu regarde pas à l'élection, il regarde à ce qu'on va faire de notre choix.
C'est ça. Les deux sont très, très présents. Puis je veux dire, votre prochain péché que vous allez faire, vous vous poserez la question si c'est vous qui avez décidé de le faire ou si c'est une grande mécanique universelle qui vous a poussé à le faire. Votre conscience va vous dire que c'est votre choix. D'accord? Vous allez savoir que c'est votre choix. Et donc, ça, mon expérience personnelle est tout à fait conforme avec les Écritures. Je fais des choix. Même si ça serait peut-être réconfortant de dire que ce n'est pas de ma faute. Hein? On pourrait blâmer bien des choses. On le fait à notre époque. Où suis-je? Est-ce quelqu'un qui veut m'aider? Romains 10, 14. Merci. Enfin, pour cette même raison, l'importance d'annoncer l'Évangile, le message de l'Évangile, afin que plusieurs soient sauvés, demeure bien entière et réelle. Fait que les Écritures ne nous disent pas, allez pas annoncer l'Évangile. Au contraire, Paul il dit, allez-y, ils ne pourront pas être sauvés. Ils pourront pas être sauvés si vous n'allez pas annoncer l'Évangile. Parce que selon les desseins de Dieu, vous allez être utilisés pour leur salut. Et donc, vous devez aller prêcher l'Évangile. Une autre mauvaise compréhension de la doctrine de l'élection, l'élection ne se fonde pas sur la préconnaissance qu'a Dieu de notre foi. Okay? Fait que là, on rentre un petit peu plus dans le vif du sujet, puis on va faire ça, puis on va s'arrêter avec le point 2 pour ce matin, on va continuer la semaine prochaine. Mais regardons ça, les pages 7 et 8. La doctrine de l'élection étant présentée à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament particulièrement, bien des gens se réconcilient avec cette doctrine en se disant que c'est parce que Dieu savait à l'avance qui accepterait de croire qu'il a pu élire des individus tout en étant juste. Encore une fois, je tiens à le dire, c'est pas dans notre confession de foi qu'il faut être calviniste pour être à l'Église ici. Je pense pas que c'est un sujet sur lequel on devrait briser la communion des frères, loin de là. Et donc, je suis certain qu'il y en a plusieurs ici qui se disent « Pfiou! » Chance qu'on peut dire ça, parce que sinon je suis vraiment pas heureux avec ça. Je crois aussi, bien franchement, que si vous faites juste prendre le signet de lecture, puis lire les Écritures quotidiennement pour les 20 prochaines années, on va avoir des belles discussions dans les années à venir, d'accord? Parce que les Écritures vont venir confronter votre raisonnement. Peut-être que c'est prétentieux de ma part, vous me le direz dans 15 ans. Ainsi, suivant cette pensée, dans une bonne mesure, le salut d'un individu repose essentiellement sur lui-même plutôt que sur Dieu, d'accord? Cette pensée-là dit, Dieu a regardé dans l'avenir, puis il a dit, quand tous les hommes vont être appelés, Yannick va dire oui. Parce qu'il y a quelque chose en Yannick qui lui permettait de dire oui. Mais, jusqu'à présent, mon père n'est pas au Seigneur. Son père, lui. Il n'y a pas ce qu'il faut pour dire oui. Fait qu'il y en a que c'est un de mes élus. Je prends ça en note dans mon calepin. Ça, c'est la position arminienne. D'accord? Je ne le dis pas avec mépris. Je pense que je la résume bien aussi. Là. Oui, Wemba.
Est-ce que les deux approches sont vraiment contradictoires? Parce que là, ce que tu as dit, tu viens de dire « Dieu a regardé dans l'avenir ». Et en fait, est-ce que c'est pas la contradiction ne vient pas du fait que justement, on pense que Dieu voit le temps comme nous voyons le temps? Lors d'une des précédentes leçons, tu avais dit qu'en fait, Dieu n'a pas besoin de regarder dans l'avenir parce qu'il voit tous les temps en même temps. Donc lui, il n'a pas de notion de passé, présent, avenir. Pour lui, tout est en même temps. Et tu avais dit aussi que Dieu fait tout de manière juste. Donc en fait, si on prend ces deux éléments, que Dieu voit tout dans le temps en même temps, que Dieu fait tout de manière juste, il n'y a même plus la question de savoir si est-ce qu'il m'a choisi parce que j'allais faire le bien ou parce que il fallait parce que il m'aime et c'est tout. Il n'y a même plus de question parce qu'en fait Dieu ne fait rien qui d'inutile, pardon. Et en même temps, il avait tous les temps devant lui. Donc en fait, c'est plus une question purement humaine de savoir, peut-être pour nous, juste pour notre plaisir intellectuel, de savoir est-ce qu'il nous a choisi à cause de mes actes ou parce qu'il m'aimait. Finalement, il n'y a même pas de question à se poser, moi, d'après moi, parce qu'il ne fait rien d'inutile, il voit tous les temps en même temps, et il voit tout ce que j'ai fait en même temps, passé, présent, futur, et il n'aurait aucune raison de choisir quelqu'un, d'élire quelqu'un qui ne serait pas sauvé. Donc, en fait...
Oui, je comprends. Ce que tu viens de dire est parfaitement logique. Et Dieu aurait pu faire les choses comme ça. D'accord? Une autre chose que j'ai dite aussi dans ce cours-là, au début du cours, puis dans le cours précédent, l'autre session, c'est que nous croyons que la Bible est la parole de Dieu et nous approchons des Écritures pour que Dieu se révèle à nous tel qu'il est. Donc, ce que tu viens de dire, c'est parfaitement logique. Je pense que c'est pas ça que les Écritures disent. Dieu aurait pu le faire comme ça. C'est tout à fait vrai de dire que Dieu savait d'avance qui allait choisir, et donc il aurait pu élire des personnes sur cette base-là. Là, j'aurais un petit peu une difficulté de langage, parce que l'élection, c'est plus que ça. Mais, je disais même en français, c'est plus que ça, c'est le choix n'est pas entier à ce moment-là. Mais ce n'est pas ce qu'on voit dans les Écritures. Il y a quelques passages qui sont ambigus, qui pourraient peut-être nous porter à croire que peut-être qu'il a fait ça. Maintenant, sur la question, est-ce que c'est juste une question justement de curiosité intellectuelle? Non, comme je l'ai dit tout à l'heure, lorsque Paul parle de l'élection et qu'il dit que c'est selon la volonté de Dieu, non selon nos œuvres, tout ça, Paul n'est pas en train de voir dans ça comme... Il n'est pas en train de dire, les amis, on parle d'église ici, on parle de vraies affaires, on parle d'éternité, c'est dur. Maintenant, on va faire une pause philosophique. On va sortir l'espresso, comme Yannick aimerait tellement, puis on va faire une discussion juste pour le plaisir de la chose. Pour lui, il y a une motivation énorme et profonde à savoir que c'est Dieu qui nous a choisis. Et donc, tout son argument qu'il fait avec Jacob et Ésaü, lorsqu'il dit de Jacob et d'Ésaü, Dieu choisit, point. Point blank. Pour lui, il y a un réconfort énorme à les trouver dans ça. Fait que une des forces, et selon moi, une des difficultés de la position arménienne, c'est qu'elle est très logique. Excusez-moi, juste l'expression anglaise, it makes sense. Donc la position arménienne sonne très, très logique dans notre esprit. Et il y a une tentation pour nous, lorsqu'on arrive devant des difficultés, des mystères au niveau des Écritures, d'arriver avec un raisonnement logique puis de dire « Ah, voici ce que Dieu est en train de dire. Je peux chercher mon raisonnement, je le mets là un instant puis je dis « Est-ce que c'est ça que le texte dit? » La réponse est non. Donc oui, c'est logique. Puis la position arménienne est très séduisante parce qu'elle semble très logique. Dieu aurait pu le faire en vertu de ce qu'il savait d'avance. Il connaissait, comme tu l'as dit, il connaissait les temps. Je ne vois pas dans les Écritures qu'il l'a fait sur cette base-là. Je le vois dans les Écritures que c'est tout simplement parce qu'il a choisi des individus, ça finit là. Qu'est-ce que ça vient changer? Ça vient changer quelque chose dans mon appréciation du salut. Ça vient changer quelque chose dans mon appréciation de ce que Christ a fait pour moi à la croix. Parce que je vais dire et je vais déclarer constamment dans ma louange, « Seigneur, j'étais un être totalement dépravé et il n'y avait absolument rien de plus en moi qu'en mon Père, pour que tu jettes ton dévolu sur moi. » Et ça, ce discours-là revient constamment dans les Écritures, le fait que Dieu choisit. Dieu dit à Israël, pas parce que vous étiez cute, vous étiez beau, puis je savais que vous alliez être très obéissant que je vous ai choisi. Je vous ai choisi, point! Puis vous êtes une gang de rebelles. Ah oui? Lequel? Oui, ça se peut. Tu nous reviendras avec la référence, mais je pense que oui, là, mais ce serait le fun d'avoir la référence. Fait que c'est ça. C'est très logique, c'est vrai, Wemba. Puis ça concorderait sur le plan logique. Je pense pas que c'est ce que les Écritures disent. Et donc, je préfère comme juste prendre un pas de distance puis dire, Dieu, si c'est pas ça que tu dis, même si ce serait logique, il doit avoir une raison. Puis honnêtement, moi, je suis très en paix avec ça. Et donc, j'y trouve un paquet de raisons. Mais je comprends que si on n'est pas en paix avec ça, on se dit, wow. Mais la semaine prochaine, on va terminer cette doctrine-là, puis vous allez voir qu'en réalité, il y a des mystères presque aussi grands avec la position arménienne. D'accord? Elle semble beaucoup plus logique que la position calviniste, mais quand tu vas jusqu'au bout de sa logique, elle est aussi difficile à accepter logiquement. Parce que vous allez toujours rester avec un problème. Pourquoi est-ce que Dieu a créé des êtres qui allaient être damnés? S'il savait d'avance, il aurait pu au moins ne pas les créer. Non? Fait que vous allez quand même rester avec une difficulté. Fait que est-ce qu'il les a élus? Est-ce qu'il nous a élus en vertu de ce qu'il voyait en nous éventuellement? Mais est-ce que ce n'est pas un être cruel, celui qui voit en quelqu'un d'autre, quelqu'un que j'aime beaucoup, quelqu'un qui m'a donné la vie physique, puis qui n'a pas adhéré à la foi encore, puis ça ne regarde pas bien son éternité? Est-ce que Dieu a été cruel envers mon géniteur? Ça aurait été mieux qu'il ne le crée pas, il me semble. Fait que voyez-vous, vous arrivez quand même avec des gros mystères et des gros questionnements, que vous soyez dans une position ou dans l'autre. Eh bien, pour tous ceux qui sont arrivés dans les 20 dernières minutes, vous voyez qu'on a des discussions super intéressantes. On vous invite la semaine prochaine à vous joindre à nous dès 9h. Vous allez pouvoir participer avec nous. Oui, Marcel? Oui? Ah oui, c'est Dieu en définitive qui est celui qui décide. Hein? Fait que la semaine prochaine, on termine cette leçon-là. D'accord? Et comme je vous dis, j'ai des bonnes lectures à vous suggérer si vous le désirez. Merci.